Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de juin. Oui, deux à la suite. Alors là, vous vous dites, non, c'est pas possible, Lisa, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, ça arrive. Bon, après, vous en aurez plus que deux, puisqu'il y aura la spéciale pile à lire d'été, ce que l'on compte voir cet été comme série, machin, truc bidule, et peut-être le Spielberg, si le lutin prend les places, hein, parce que ça fait une semaine que je lui demande, enfin, on va y arriver. Et on vous fera un spécial petit bal du 14 juillet, voilà, puisque comme ça sera le lundi 13 juillet, la veille, il y aura sûrement le bal le soir, nous on se fera un bal avant, voilà, en pleine journée, en espérant qu'on ait survécu, hein. Parce que là, ça... Hein ? Oui, oh bah là, on est, on a dépassé largement les 40. Oui, très largement. Voilà, voilà, ça c'est fait. Allez. Ah non, mais écoutez, je vous dis que c'est pas une vie. Alors, on va parler d'abord d'un film, ensuite d'une série, ensuite d'un livre, puis une série, puis un livre. Vous avez vu le... Ah bah, on enchaîne, on fait ce qu'on peut. Alors, on va mettre d'abord de la musique, avec une petite, comment dire, inspiration, indice, petit indice, gros indice quand même, hein, dans le titre quand même. Et on va parler du film qu'on a vu au ciné, il faisait bon dans la salle, et même très froid, parce qu'on a quand même, on a failli se prendre des torticolis, avec la clim, on l'avait en plein dans le dos, c'était pas une bonne idée, mais bon, c'était agréable, quand on est sorti, on a failli crever. On a littéralement fondu. À la sortie de la salle, on s'est regardé, c'est terrible. Parce qu'il pousse le curseur de la clim tellement froid dans les salles que, en fait, quand vous sortez, vous avez pratiquement 10 degrés de décalage et vous crevez dans la seconde. Voilà, c'est... Normalement, il faut 4-5 degrés grand maximum entre l'extérieur et l'intérieur. Bon, on est d'accord qu'en ce moment, vu la température, on les tape les 10 degrés larges. Hein. Voilà, mais on n'a pas de clim, nous, donc on a chaud. Ah ben là, dans la Casbah, on est quand même à 31,5. Hein. Ah ben, il faut que ça s'arrête, parce que sinon là, on va exploser les compteurs, on va dormir dehors. Hein. Donc, c'est comme ça. Allez, petite musique gold avec Plus près des étoiles, et ensuite, on vous parle du film. Oui, alors, il y en a certains qui ont trouvé de quoi on va parler. C'est tellement facile.
Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs.
Alors Gold, Plus près des étoiles, un film au cinéma. Ah bah oui, Star Wars, The Movie, The Mandalorian and Grogu. Ah bah, fou m'étonner. C'était tellement facile. Alors, ça là, tu l'as pas trouvé. Bon, bref. Alors, on est à la période de la chute du maléfique Empire Galactique, donc qui a dispersé les seigneurs de guerre, impériaux évidemment, à travers la galaxie. Et en fait, pour protéger ce qui reste de ce que la rébellion a fait, la Nouvelle République va demander au légendaire chasseur de primes Mandalorian et son jeune apprenti, le trognon, choupiné, Grogu, de participer à ça. Alors, je vous le dis, et vous le savez, ça fait des années que si vous me suivez ici sur Liberté FM, je suis une fan de Star Wars. Oui, oh bah ça c'est fait. Mais je suis objective. Parce que j'ai vu des trucs géniaux et je suis une très très grande fan de Rogue One et j'estime que c'est quand même l'un des tout meilleurs avec la trilogie originelle, donc les 4, 5, 6 de Star Wars. Or, bien sûr, série animée, etc. Mais vraiment, c'est l'un des meilleurs films de Star Wars. Mais j'ai vu des daubes aussi, hein. Alors on ne parlera pas de Han Solo, hein. Mauvais casting, très mauvais casting, je pense trop de scénaristes à la barre, et ne me lancez pas sur les 7, 8 et 9, hein, parce que bon, déjà le 7, à part Poe Dameron et General Hux, rien à sauver, 8 à part Kylo Ren et évidemment encore General Hux et Poe Dameron, rien à sauver, alors le 9, il n'y a rien. Sauver là-dedans s'il y a une scène avec Kylo Ren, enfin avec Ben Solo en vérité, le reste c'est une aberration, on est d'accord sur la question. Donc on peut être fan mais avoir un œil critique. Alors nous on est allé voir donc Mandalorian et Grogu parce que en fait on avait beaucoup aimé les deux saisons de la série. Alors je vais vous le dire tout de suite, attention, ce film est juste un très long épisode prolongeant la série excellente au demeurant de Mandalorian, point barre. Voilà, alors si, c'est un one shot, donc si vous n'êtes pas trop Star Wars, si vous n'avez pas vu la série, c'est bête de dire ça, mais je ne vous le recommande pas. Alors visuellement, il est très bon, c'est un très bon truc, si vous voulez peut-être, oui, ça peut attirer le chaland, c'est vrai, tu as raison. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez, hein, attention, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la série pour comprendre quoi que ce soit, mais... Quand même, s'il y a des petits détails et tout. Alors, attention, moi j'ai passé un très bon moment. On a passé un très bon moment. Les enjeux sont à la fois simples, attention, les codes sont là. Pedro Pascal, donc, qui interprète de Mandalorian, ça marche excellemment bien. Grogu, il est absolument trognon. Il est très irrévérencieux. Ah là, sale gosse, mal élevé, mais il est absolument génial. Alors attention, voir Sigourney Weaver, oui, The Ellen Ripley, hein, oui, bah, pour les gens de ma génération, vous imaginez bien, Princesse Léa et Ellen Ripley, c'était nos références en tant que filles, hein. De badass quand même. Hein. Voilà, vous voyez d'où vient la génération X, hein. Voilà, c'est ça, en increvable. Unstoppable, comme dirait Sia, comme chanterait Sia. Sigourney Weaver dans un rôle où elle est un genre de starfighter. Moi, ça m'a fait ma soirée, hein, je vous le dis. Je pense que je fais partie des débiles qui ont gloussé de bonheur dans la salle. Bon, sous le regard effaré dans le noir, heureusement, du lutin qui m'a regardé en mode « Putain, c'est pas possible, c'est terrible. » Alors, on a ce qu'on veut dans ce film. On pressent ce qui va arriver, mais il n'y a pas de faille. L'histoire va du point A au point B. Il y a ce qu'il faut de vaisseau, de clin d'œil, d'humour, de tendresse, parce qu'il y a des moments assez tendres, de dialogue. Alors, je n'irais pas dire dialogue culte, mais des répliques cultes. Et bien sûr, des combats, des batailles, des machins. La musique, elle est là. Elle n'est pas trop Star Warsienne, mais elle passe. Moi, je vous dis, j'ai passé un très bon moment, vraiment. Des étoiles dans les yeux, bon, pour un film Star Wars, vous me direz, c'est le minimum syndical. C'est ni meilleur, ni pire que certains. C'est un grand épisode, avec un morceau de la galaxie dedans, avec le plaisir de trouver des nouveaux personnages et des emblématiques. Alors, deuxième couinement de bonheur quand j'ai vu Jabba le Hutt à l'écran. Ah si, quand même. Ah, moi, cette grosse limace. Bon, bref. Et puis, bah, c'est se plonger dans des très belles images, dans un très bel univers. Vraiment, ils maîtrisent la série sur le. Vraiment, ils maîtrisent leur petit Star Wars illustré. Eux, ils font pas de faute de goût hein, quand ils font quelque chose. Que ça soit Favreau ou Filoni, franchement, ils connaissent le petit Star Wars illustré. Ils font pas des grosses boulettes comme certains. Moi, j'en ai pris personnellement plein les yeux. C'est pas un film inoubliable. Ça atterrira pas dans ma DVD tech parce que personnellement, contrairement à Rogue One que j'ai acheté en DVD immédiatement quand c'est sorti parce que j'étais en mode groupie et que dès que je peux le revoir, je le vois. Celui-là, non. Mais franchement, je suis sortie avec des étoiles plein les mirettes. J'avais ri quand il fallait rire, soupiré quand il fallait soupirer, la larme à l'œil quand il fallait. C'est du bon Star Wars. Voilà. Donc, The Mandalorian et Grogu. J'oublie. Alors, je vous le dis tout de suite, le lutin, il n'aime pas Grogu. Enfin, c'est pas qu'il. Non, bah, si, tu l'aimes pas. Tu lèves les yeux au ciel à chaque fois que tu vois Grogu. Alors, tu vois, ouais, c'est encore un truc. Mais c'est. Alors, lui, il aime les Ewoks. Moi, je les supporte pas, ces bestioles à fourrure, là. Donc, chacun ses goûts. C'est comme ça que ça marche. Allez, il est con. Pardon, fallait pas le dire. Tu vois ce que tu me fais dire à l'antenne? Il y a le chef, il va crier. Petite pause musicale. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Ça vient pas de moi. On veut des légendes. Ah, c'est pour. Mais ça n'a aucun rapport en fait. Enfin, si, mais ça n'a pas rapport. Non, alors, bon, écoute, ça n'a pas de rapport avec la série d'après. Moi, j'aurais mis un truc plus Patsy pour Liverpool. Voilà, ou The Coral, enfin un groupe de Liverpool, quoi. Voilà, ah bah ça, c'est pas moi qui ai fait la programmation, désolé.
L'ex-Beatle John Lennon disait que le rock and roll était mort. Faisait le jihad près de Francfort. Certains disent que le King Vieto dans une île cachée, un endroit sûr. J'espère pour lui qu'il est bien mort. Pas de fuite en sous terre, ça serait trop dur. Des légendes à consommer toute prête sur commande. Les mythes nous rangent, mais tiennent le monde grâce à nos marchands d'illusions. Les hommes politiques l'ont bien compris. Ils promettent de beaux lendemains. Une fois au pouvoir, ils nous oublient. Ils disent laisse faire, je m'occupe de rien. Celui qui sauve, loyal et bon. On peut faire une croix sur ce Messie. Y'a qu'un Jésus digne de ce nom. On veut des légendes en étant mal con. On grâce à nos marchands d'illusions.
Donc Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, on veut des légendes. On va parler d'une série qui s'appelle Legends sur Netflix. Moi je vous le dis, hein, j'ai pas fait la programmation. Sur cette émission-là, j'ai pas fait la programmation. Commencez pas à gueuler. Hein. Je vous dis, râlez après le lutin. Il a dit, moi je fais. J'ai dit, vas-y. Ah ben je découvre. Hein. Oh là 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 là. Bref. Alors, Legends, c'est une série sur Netflix qui nous a vraiment bluffé. Ça se passe au Royaume-Uni dans les débuts des années 90, donc sous l'ère de Margaret Thatcher, qui a, on va le rappeler, hein, ruiné tous les pans du pays, que ça soit économie, industrie, sociétale, enfin bon bref, elle a foutu le pays par terre. Et à ce moment-là, les douanes, donc vraiment au début des années 90, les douanes se rendent compte en fait de l'entrée de plus en plus de drogue qui arrive absolument de tous les côtés. Et ils vont lancer une opération ultra secrète d'une toute petite équipe de douaniers qui va être envoyée sous couverture pour infiltrer certains gangs de drogue les plus dangereux du pays, puisque ça va se passer entre Londres et Liverpool. En fait, le départ et la mort de certaines personnes d'une nouvelle drogue qui est importée, qui fait des ravages à Londres et à Liverpool, et notamment auprès de la fille d'un parlementaire. Donc forcément, ça va lancer une enquête et ça va faire les journaux, les gros titres, etc. Et donc cette petite unité va se faire mettre, enfin va être mise sur pied. Alors attention, c'est pas des pros, ils sont pas formés, ils attendent rien, mais ils sont volontaires. En fait, il y a eu un appel de leur hiérarchie en disant voilà, enfin ils vont pas dire pourquoi, mais ils ont dit on a besoin de personnes qui veulent s'investir dans une opération importante. Enfin, ils leur ont pas dit pourquoi au début, parce que je suis pas sûre qu'ils auraient été volontaires des masses, mais ils s'emmerdent dans leur, pardon, ils s'embêtent dans leur poste, vraiment ils tournent en rond, il n'y a pas d'intérêt, etc. Donc ils se disent bon bah ça peut être une mission importante, primordiale, etc. On va peut-être faire des choses différentes de ce qu'on fait de notre ronron. Alors vu comme ça, je suis sûre qu'il y en a certains qui se disent « Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, ton histoire, à mon avis, c'est un truc monté. » Mais pas du tout, c'est une histoire vraie. En fait, l'enquête a mené ces douaniers dans une des opérations les plus périlleuses et les plus incroyables qu'ait porté le Royaume-Uni. Tout ça sous couverture et pendant de nombreux mois, voire plus d'un an. Alors, je vous le dis, ils ont mis évidemment leur vie en danger, celle de leur, de leur famille. Ils ont appris sur le terrain. Alors, dans une ère où, évidemment, le papier et le Nokia sans Internet à touche, là, enfin, il fallait faire les SMS à l'époque, c'était bien, hein, vous faisiez un truc court, hein, vous ne raconteriez pas votre vie, hein, parce que le temps que vous touchiez toutes les touches pour trouver la lettre, il y en avait pour 6 mois. Donc, voilà. Ça permettait surtout de ne pas être démasqué trop vite ou d'être tracé. À l'heure actuelle, ils n'auraient pas tenu 10 minutes, surtout que ce n'était pas des pros, donc voilà, c'était un peu compliqué. Mais ces hommes et ces femmes, donc, vont être infiltrés, ou alors agents de liaison entre les infiltrés et le commandement, pour trouver la faille, pour remonter plus ou moins la filière et essayer d'annihiler cette histoire. Alors, ils ont eu beaucoup de courage face à ce travail, face à ces marchands de drogue qui ne reculaient devant absolument rien du tout. Ils n'ont pas reculé non plus en essayant de retourner des personnes de leur entourage, mais franchement, ils ont pris des risques absolument phénoménaux. Alors, un des infiltrés, par exemple, va devoir quitter sa famille, s'oublier dans des réseaux. Il va être aidé par un informateur qui, lui, a des comptes à régler en interne, mais ça, on le découvre, nous, en parallèle. Alors, ça se passe à Londres, bien sûr, mais surtout à Liverpool, qui est, à ce moment-là, la plaque tournante, c'est un port. Voilà, cette mise en place de réseau. Et il y a un autre dealer, donc à Liverpool, qui ne lésine devant aucune saloperie. Alors lui, il m'a foutu une trouille. Pour étendre son domaine, quitte à tuer ou faire tuer, mais tuer lui-même aussi, ça ne le gênait pas, des gens qui le gênent. Voilà, alors vous avez la méfiance, les faux semblants, le stress en continu, parce que franchement, c'est 6 épisodes, mais ça va crescendo. Des menaces possible sur leur famille. Et puis ces hommes, ces femmes, en fait, elles ont eu la chance d'avoir un chef qui et peu de hiérarchie qui les soutiennent. Alors, ne parlons pas des politiques et des machins, il n'y a personne qui savait. Ils lésinent pas, ils sont courageux, ils apprennent sur le tas. Ils vont faire face à certaines têtes de réseau bien barrées à souhait, et inutile de vous dire que franchement vous n'avez pas envie de vous y être. Alors le scénario n'épargne absolument rien, c'est des fois un peu gore, un peu sanglant. La reconstitution de Liverpool à terre de ces années-là est parfaite. Alors ne vous attendez pas à avoir une touche d'humour très british dans la série, il y a 2-3 petites choses, mais vraiment c'est noir, c'est glauque, c'est même parfois assez étouffant. Mais il y a la chance d'avoir des personnages, enfin ces personnages, c'est même pas des personnages, c'est des personnes qui ont une espèce de touche de lumière de temps en temps, un ray de lumière, et ça, ça fait du bien. Par exemple, il y a celui qui est infiltré pour venger la mort de son fils mort d'une overdose, il y a celui qui a un idéal à défendre, même si c'est mal foutu, mais il veut défendre ça. Il y a ce flic ripou qui essaye, comme il peut, de restreindre l'entrée de la drogue en acceptant des pots de vin, ce qui fait de lui un ripou, mais qui a un minimum de conscience, même si c'est pas formidablement bien étalé pour lui. Voilà, il y a toute la complexité des ramifications qui fait qu'en fait, on regarde cette série, je vous rappelle, hein, elle fait 6 épisodes en apnée. Voilà, alors ensuite, 2 équipes, hein, donc à Londres et à Liverpool. Attention, les scènes se multiplient, se croisent et se recroisent, ça peut être déroutant, surtout si vous prenez pas garde au début de qui est où. Sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé le côté très linéaire, très monotone de la progression de l'enquête, parce que vraiment, on progresse de cette enquête au long cours de la même façon que eux, ils ont pataugé ces pauvres gens, y compris jusqu'à une certaine danse assez macabre jusqu'à la fin. Franchement, si vous aimez les séries british noires et notamment les infiltrations dans les années 90, avant l'ère de Je sais tout sur tout, allez-y, Legend sur Netflix. Alors attention, il y a un personnage absolument stressant sous des airs angéliques, parce que l'acteur est très beau. C'est une véritable merde. Ah bah là, celui-là, Dick Lund, si tu passes par là, au revoir. je m'en approche pas à 10 mètres, enfin 10 mètres, 3 km, oui, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, il joue très très bien et son personnage est tellement ambigu que vous êtes tout le temps entre attirance et répulsion avec lui. Donc c'est sur Legends, donc sur Netflix. Petite pause musicale, Lynn Renault, Ma cabane au Canada. Ah oui, tu as raison. Ah là, il y a eu un rapport. Bon, enfin bon, on aurait pu trouver autre chose.
Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige. Elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi, la vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs, toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis née. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. Nous n'aurons pas un vieil indien entourera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages, je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, ton petit restera, ce sera le paradis, mon chéri. À quoi bon chercher ailleurs? Je sais bien que le bonheur, il est là, dans ma cabane au Canada.
Alors après Lynn Renault et sa cabane au Canada, on va parler d'un livre qui s'appelle Cucum. Alors Cucum, si vous voulez, en gros, voilà. Mais c'est un livre qui m'a véritablement bouleversée. Alors c'est un roman qui est écrit par Michel Jean, qui est un autochtone. Un écrivain autochtone, donc. Alors, on est avec Almanda, qui a 15 ans, qui va tomber amoureuse de Thomas, qui est un jeune Innu, dans l'immensité, on va dire, du Canada. Et donc, cette orpheline québécoise d'origine irlandaise va quitter tout de suite, assez rapidement, les siens pour le suivre dans cette existence de nomade. Et elle va nous entraîner avec elle. Alors, je dois avouer que les temps sont assez durs. Pour eux, forcément. Mais alors, c'est d'une rare beauté. Vraiment. C'est vraiment absolument magnifique comme livre-là. Alors, c'est donc, on va suivre cette jeune fille qui va nous raconter, Almanda, qui va nous raconter ce qui lui est arrivé et la vie. Puisqu'elle va vivre plus de 96 ans, tout ce qui lui est arrivé du moment où elle rencontre Thomas, comment se passaient les hivers, les étés, les printemps, quelle était leur vie en harmonie avec la nature, comment ils chassaient, comment ils pêchaient, comment ils faisaient leur coin, comment ils montaient leur tente, comment ils vivaient au quotidien, en vendant des pots, en tuant les animaux, en harmonie avec la nature, en disant que la nature donne quelque chose, vous lui prenez, mais il faut lui donner quelque chose en échange. Et tout ça avec une beauté absolue d'une langue très épurée, mais très belle, très sensible, très poétique, sachant que Michel Jean est issu de cette communauté. En fait, il raconte la vie de sa grand-mère, puisqu'en fait, c'est sa grand-mère en Almanda. Et il raconte par rapport à ce qu'elle lui a raconté. C'est une jeune fille blonde, avec un ton très pâle, qui dénotait forcément dans cette communauté, mais qui a su immédiatement prendre les us et coutumes, et qui est devenu beaucoup plus innu que pratiquement la communauté. Donc évidemment, c'est ancré dans une nature immense. Elle a un destin qui est à la fois magnifique mais très tragique, parce qu'en fait elle va expliquer que ce peuple ancestral va voir arriver la modernité, qui n'est pas une bonne chose pour beaucoup de choses, et enfin pour beaucoup de monde, et spécialement pour eux, parce que leur liberté va être entravée. Et en fait, par là, elle raconte aussi ce qui est arrivé à ces autochtones, c'est-à-dire ces réserves où on va les parquer, leur enlever leurs enfants, parce qu'au Canada, ça a été d'ailleurs une grande affaire absolument sordide de tous ces jeunes autochtones qui ont été enlevés à leur famille sous prétexte de les éduquer à la canadienne, et qui vont se retrouver dans des orphelinats ou dans des pensionnats où ils vont subir des sévices sexuels, etc. Enfin, ça a été une affaire absolument, absolument sordide, qui est sortie il y a quelques années, hein, mais qui continue à avoir des répercussions. Et petit à petit, en fait, grignoter la nature. On voit le fait de ces gens qui arrivent pour manger la forêt, qui coupent à de brasser de douze des troncs d'armes, qui qui font dériver sur les rivières, qui servent à ces gens-là pour aller pêcher, pour aller se déplacer, etc. Et donc, ils ne peuvent plus emprunter certaines voies d'accès qui défrichent à tire-larigot, qu'on parque, qu'on oblige à adopter des choses, etc., qui ne sont pas de leur fait. Et en fait, on les prive de leur liberté, on leur prive de leur esprit. Et tous ces jeunes qu'on a plus ou moins mis dans le système pour les rendre plus blancs que blancs, font qu'ils ont oublié leur langue, ils ont oublié les légendes, ils ont oublié les histoires. Et donc, ça en fait un peuple déraciné, enfin, en tous les cas, des générations déracinées, parce que ces enfants-là, ben, ils n'ont pas de retour de leur vie. Ils n'ont pas de retour de ce qui est, on va dire, compliqué pour eux. Et en fait, ils ont une nostalgie qui n'est plus là, mais ils sentent une nostalgie, ils sentent quelque chose qui leur manque. En fait, c'est comme s'ils étaient amputés d'un membre, mais en fait, ils l'ont toujours, mais ils sentent une absence. Voilà. Vraiment, c'est un texte magnifique. C'est très émouvant. Il n'y a pas de pathos, mais elle raconte sa vie, en fait. Elle raconte de ses 15 ans à ses 96 ans. Elle raconte le chemin de fer qui va un jour arriver devant, à la limite devant sa porte de maison, qu'avec elle et son mari, ils ont mis tant de temps à construire, petit bout par petit bout, etc., en trimant comme des galériens. Mais elle refuse de partir. Elle préfère que la maison tremble et qu'à chaque fois, elle perd des choses parce que le train passe. Et d'ailleurs, petit à petit, le train ne va plus passer. Pas parce qu'elle l'a décidé, hein, c'est parce qu'en fait, ils ont fait des rails pour rien, pour faire deux, trois trucs. Comme l'industrie s'est cassée la figure, ils ont arrêté. Mais elle refuse de partir parce que c'est là où elle a élevé ses enfants, c'est là où elle était heureuse avec son mari, c'est là où la communauté était heureuse. Et en fait, c'est un retour, c'est un appel à la nature et de ne pas oublier d'où on vient, plus ou moins tous, parce que même si on n'était pas des autochtones, nos ancêtres, ils ont vécu en harmonie avec la nature, les forêts, ils vivaient avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils produisaient, ce que la terre leur donnait, ce que le ciel leur donnait, et ils n'avaient rien d'autre. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau livre, ça s'appelle Cucum, qui veut dire grand-mère en innu. Donc voilà, c'était un livre que je voulais signaler, donc de Michel Jean. Si vous y tombez dessus, c'est en poche. Franchement, c'est un petit bijou absolu. Alors, petite musique qui va parler d'étoiles encore. Ah oui, c'est vrai. Non, mais celle-là de chanson, elle est belle. Et on va parler d'une série fantastique. Alors, ça va faire partie des très grandes séries de l'année. Je vous le dis tout de suite. Allez, Sylvie.
Stars
Ça te vaut pas du tout. Et là, il m'a carrément coupé le micro. Non, mais sérieux. Alors, c'était Simply Red avec Stars. Voilà. Alors, non, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Il appuie sur le bouton, il me dit oh, pardon. Bah oui, oh, pardon. Ouais, oups. Alors, on va parler de la série qui. Oui. Alors, on va le dire tout de suite. On a commencer la saison 5 de For All Mankind, donc cette histoire de réalité alternative où les États-Unis ont marché largement avant sur la Lune et sont même allés coloniser Mars avec une colonie, un système complet, avec vraiment une colonie en plein essor. On fait des allers-retours entre Mars et la Terre comme si on prenait le métro, en gros. La saison 5, on l'a abandonnée, hein, je vous le dis. Moi, les deux premières saisons étaient fantastiques pour All Mankind. Troisième, quatrième, horrible. La cinquième, on s'est dit, ça va être sympa. Ben, pas du tout. Alors, on s'est vraiment ennuyé. Donc, on a arrêté. Alors, peut-être, et c'est ce qu'on s'est dit, peut-être qu'elle a pâti du fait qu'on avait commencé l'autre série sur Apple TV. Elles sont toutes les deux sur Apple TV, qui s'appelle Star City. Alors, outre le fait que Star City est vraiment exceptionnellement bonne, mais je pense qu'elle a pâti la saison 5 de For All Mankind du fait que il y avait un tel décalage de classe entre les deux que c'était pas possible. Alors Star City, c'est vraiment c'est pas vraiment dérivé, mais c'est accroché à l'histoire de For All Mankind, puisqu'en vérité, dans cette réalité alternative, c'est l'Union soviétique qui a décidé qui est devenue la première nation à mettre les pieds sur la Lune, qui va mettre une femme cosmonaute en orbite et sur la Lune, etc. Donc, c'est vraiment la course à l'espace, mais qui est retracée du côté soviétique derrière le rideau de fer. Et en fait, ça montre la vie des cosmonautes, la vie des ingénieurs, la vie des officiers de renseignement du programme spatial soviétique, tous les risques qui sont pris par chacun d'entre eux, en fait, pour propulser l'humanité vers une nouvelle ère. Parce que après avoir été sur la Lune, ils visent une autre planète, et c'est pas Mars. Et on voit tout le système. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est une des séries. Alors, elle n'est pas anxiogène, si quand même un peu, mais elle n'est pas anxiogène dans le monde, dans le sens où vous allez avoir le trouillomètre à zéro, le cœur qui va s'emballer, etc. Mais il y a une pression systématique. Alors déjà, elle est assez grise. Alors, pas parce que c'est moche, mais c'est du gris soviétique. Alors, si vous avez déjà vu des images de certains endroits du bloc soviétique, alors tout le monde voit assez bien Bucarest avec cette grande allée, avec ses bâtiments très soviétiques, hein, c'est du béton, hein. Voilà, mais vous avez déjà sûrement vu des images de certains monuments de Moscou très soviétiques, très carrés, très imposants, avec cette ligne qui fait des centaines de mètres, avec des habitations en haut, en bas, mais c'est vraiment du cajapoule, hein. Voilà, alors c'est très beau architecturalement, à part les métros est très beau, les métros sont très beaux en Russie, mais voilà, il y a des abribus. Moi, je suis fascinée par les abribus sur le territoire de l'ex-URSS, parce que c'est des pures merveilles. Alors des fois c'est du béton, du fer, etc., mais ils ont fait des œuvres d'art, hein, les mecs. Mais voilà, c'est très soviétique. Donc là, c'est très gris, mais c'est pesant. C'est-à-dire que vous avez quand même des personnages qui écoutent les autres. Et donc, on rentre dans ce qui était l'Union soviétique et tout ce côté contrôle de la vie des gens, que ça soit le simple petit ouvrier en bas, comme le cosmonaute qui se fait écouter dans sa vie personnelle avec des micros cachés partout dans l'appartement, alors qu'il est le héros de la nation. Et ça retrace tout ce qu'ils ont dû faire, les sacrifices, les gens qu'on a sacrifiés aussi, les gens qui essayent de louvoyer pour pas se retrouver dans le viseur du KGB et des officiers de renseignement. D'ailleurs, il y a une colonelle qui gère cette Star City, puisque c'est une base où habitent tous les ingénieurs, les cosmonautes. Bref, c'est vraiment la base de fabrication de leur programme spatial. Elle fout la trouille à un régiment d'infanterie. Vraiment, l'actrice est fabuleuse, parce que dès qu'elle rentre dans la pièce ou qu'elle est dans la scène, vous vous raidissez tout seul, parce que vous savez de quoi elle est capable. Voilà. Dès le premier épisode, y a vraiment deux scènes où vous vous dites « waouh ». Parce qu'ils épargnent rien. Voilà. Alors, il y a évidemment des personnes derrière, c'est-à-dire des êtres humains qui agissent comme ils peuvent. Alors, ils trahissent, ils trahissent pas, ils aiment, ils essayent d'aimer, mais ils s'y prennent mal, ou alors ils s'y prennent tellement mal qu'en fait, il y a quelqu'un qui récupère la possibilité, leur faiblesse, et donc appuie sur le truc de la faiblesse, et donc tout ce système de renseignement fait que ils se servent des faiblesses des autres pour toujours mettre les gens sous leur coupe. Voilà. Que dégager une femme qui est quand même la cosmonaute qui a posé les pieds sur la Lune, qui est une héroïne de la nation, la mettre comme au rebut à un moment donné, ça ne les gêne pas. Voilà, il y a des sous-intrigues. Vraiment, Star City, c'est waouh, vraiment. Très 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 bonne série, vraiment pied au plancher, le cœur serré, j'espère qu'il y a une saison 2. Ah ouais, non, moi il faut pas qu'il me laisse comme ça. Alors on va faire une petite pause musicale et on va parler d'une dernière... Est-ce qu'on fait la pause musicale ou on fait que le livre? Parce que du coup... Ouais, t'as raison, on fait le livre direct. Alors on va parler du livre, d'un roman aussi, très très bon roman. Qui s'appelle tout simplement En attiré sur Aragon de François Werth. C'est chez Rouergue Poche. Enfin, en tous les cas, moi je l'ai lu en poche. Alors, on est en 1965, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours des tensions, des règlements de compte et des nids d'espions. Le tout au plat pays, enfin qui n'est pas si plat que ça. Et on pourrait même dire qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Belgique, en fait, dans ce roman-là. François Werth, en fait, il ouvre son roman sur un monument national français qui est Louis Aragon, qui déambule sur les lieux même de la défaite de Napoléon à Waterloo. Oups ! Parce qu'en fait, il est venu prendre des notes pour revisiter son emblématique livre Les communistes. Et donc, il est là, tranquille, il descend de la butte et il est à 2 cm de se prendre une balle. Alors, qui n'est pas perdu pour tout le monde, la balle, mais qui va lancer le roman. Et l'auteur va nous montrer plusieurs strates d'influence, de questionnement à l'appel et d'enquête, puisque en fait on va parler de communisme, de trahison, de soupçons, de collabos pendant la guerre, de héros, de salauds, et le tout avec une enquête qui est menée par un détective privé qui est un ancien communiste convaincu mais qui n'est pas maso, qui s'appelle Victor Rousseau. Et alors, il faut bien l'avouer, l'ombre de la Seconde Guerre mondiale plane vraiment dans ces années 60, parce que ça se passe dans les années 60, en plein développement socio-culturel, puisqu'on voit arriver les mini-jupes, l'émancipation de beaucoup de choses, etc. Mais il y a quand même des relents de fascisme à l'Est et qui s'oppose à cette liberté nouvelle qui arrive de l'Ouest et qui fait vibrer tout le monde. Alors, il faut le dire d'emblée, il y a une qualité d'écriture, d'érudition, d'intelligence, de fourmillement de détails dans ce roman qui est vraiment, vraiment impressionnante. Il y a de très nombreuses références. Alors, qui pourront peut-être rebuter certains non habitués aux romans politico-historiques, mais l'auteur distille les clans, la violence politique, les radicaux, les inimitiés, les idéaux, les gens qui ont des idéaux purs et durs, ou ceux qui sont juste très intéressés. Et au milieu de ça, vous avez deux hommes. Enfin, au milieu de la foule, vous avez deux hommes. Aragon et Paul Nizan, les adorateurs et les défenseurs et ceux qui ne peuvent pas les blairer. Et au milieu, cool la Belgique. Hein. Ah bah, ça, c'est tout à fait ça. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre les pas de ce Victor Rousseau, qui est plein de contradictions, qui est d'ailleurs fan de littérature de séries noires, mais qui va plonger dans cette enquête, ou ces enquêtes, on va dire plus ou moins, sur le fameux tireur sur Aragon. Il va être mandaté par le Parti communiste belge, notamment. Mais il va être suivi par un homme à tout faire, par les journalistes, par des policiers, par des gens qui sont affiliés. Il va rencontrer les services secrets. Tout le monde essaye de noyer le poisson comme il peut. Et au fil des pages, on découvre que chacun a un intérêt assez précis. Que ça soit l'Académie des lettres belges jusqu'aux services secrets qui sont plus ou moins infiltrés par un hérisson. Si, il s'appelle Hérisson, le type, enfin c'est son surnom, l'agent de la sécurité d'État. Et tout ça au milieu des pontes de la littérature qui se déchirent encore autour d'un certain Paul Nizan qui est mort en 1940. Si vous n'avez pas qui est Paul Nizan, il va falloir vous renseigner. Et qui, lui, pauvre garçon, n'en demandait sûrement pas autant à l'époque. Mais bon, voilà, ça avait était très tiré entre Aragon et Nizan parce qu'il y en avait qui étaient pour le pacte germano-soviétique et d'autres pas du tout. Voilà, et donc tout ce roman qui est assez ténébreux quand même nous fait couler, nager, en eau trouble entre policiers, politiques, écrivains, communistes, fascistes, pacifistes, espions, agents doubles, voire triples. Et bien sûr, un certain goût de la littérature dans la bouche, hein, qui n'était pas très reluisant au final, en fait, de temps en temps. Et donc, ce Victor Rousseau est vraiment un personnage assez atypique, avec plein de facettes, et qui livre, à sa manière, un pan assez noirci, mais diablement érudit, je le rappelle, hein, très addictif, très fumé, mais très érudit. Et une certaine belgitude, quand même, absolue dans les galeries de personnages aussi intrigants que détonnants. On a tiré sur Aragon est vraiment un très, très bon roman noir. Fleuve, mais très bon. Des fois, peut-être un peu déroutant, mais très documenté. Faussement plat. Et vraiment, j'ai passé un très, très, très bon moment à le lire. Donc, écoutez, On a tiré sur Aragon de François Wertz, si ça vous intéresse et si vous aimez ce genre d'ouvrage, n'hésitez absolument pas. Eh bien, écoutez, c'est la fin de l'émission. On va se quitter. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, voilà. Et là, il y a le lutin qui... Oui, casse-toi. Surtout que c'est toi qui as choisi la dernière. Alors, excuse-moi, s'ils n'aiment pas, c'est ta faute. Alors, on va vous souhaiter, bon appétit. Mes petits camarades vont prendre la relève, donc allez-y. N'hésitez pas à aller écouter les podcasts en replay. Ça fait des audiences et ça permet à la radio de se développer. Nous, on s'occupe de vos petites oreilles, vous vous occupez de vous, de vos proches, de ce que vous aimez, de vos voisins, des gens sensibles, surtout en cette période assez compliquée et assez difficile à supporter. On se donne rendez-vous, je crois lundi prochain, on les cumule. Hein. Trois lundis à la fois, vous allez plus pouvoir nous supporter. Hein. Bon, après, on fait une fausse estivale, vous êtes tranquille. Ah, ils vont se dire, on les a plu, on est tranquillo, voilà. On sera de retour le 31 août, sûrement. Ou pas, je sais pas. On n'a pas décidé encore, mais il faudrait quand même qu'on bouge nos fesses, hein, voilà. Écoutez, on va se quitter en musique avec Hélène Segarra. Alors, la chanson est quand même vachement mieux chanté par Rufus Wainwright, mais il n'a pas voulu mettre celle-là. Il m'a dit non, je la préfère par elle. Ça s'appelle La Complainte de la Butte. Magnifique. Mouloudji l'a chanté aussi très très bien. Tu aurais pu prendre Mouloudji quand même. Ouais, bon, bref. Allez, Hélène Segarra, La Complainte de la Butte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, pile à lire Estival, ce que l'on prévoit de voir comme film ou série, et on n'a toujours pas vu le Spielberg. On va y arriver. Fatigant ce garçon. Et d'ici là, bisous, à la semaine prochaine, La Complainte de la Butte. Et ça me donne envie de revoir le film Moulin Rouge.
Sois la bienvenue dans mon cœur brisé. les ailes du moulin protègent les amoureux. Ma petite mendicotte, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine. J'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les ailes du moulin protègent les amoureux. Les escaliers de la butte sont durs, miséreux.